Je sais pas si vous êtes comme moi, mais il semble qu'il y avoir un scénario qui se dessine en rapport avec la COVID. Premièrement, on dit de reporter le masque, de se tenir à 2 mètres plutôt que 1. Il y a une hausse des cas en Mauricie qui semble être un épicentre. On parle de la possibilité d'un passeport vaccinal comme New York l'a fait. D'une quatrième vague inévitable, semble-t-il. Et là, on pousse sur des tests de dépistage préventif. Bon, André Veillette est immunologiste, il est médecin bien sûr, et docteur à l'Institut de recherche clinique de Montréal et membre du groupe de travail sur la vaccination contre la COVID-19. Bonjour Monsieur Veillette.
Bonjour Monsieur Mongrain.
Docteur Veillette, parlons d'abord de la vaccination. Est-ce qu'on est satisfait du taux de vaccination ou s'il faut encore pousser?
Je pense qu'il faut pousser. Bon, on doit être partiellement satisfait parce qu'on a quand même réussi à vacciner beaucoup de gens avec 2 doses, avec des excellents vaccins, puis on voit déjà l'effet bénéfique de la vaccination. Mais on sait de plus en plus avec ce virus-là qu'on va probablement jamais avoir ce chiffre-là d'immunité collective. C'est probablement un peu utopique. Et puis, je pense que le plus on va se rapprocher de 100%, de la population générale, incluant même, on espère un jour, les moins de 12 ans, le plus on va se rapprocher de 100%, le plus on va être en mesure de contrôler ce virus-là.
Pourquoi on parle de... Et on force, il y a M. Kaiser de la Ville de Montréal, chef médical de la direction régionale, qui aujourd'hui, dans un point de presse, parlait d'autre chose. Là, il parlait de la légionellose, mais il en a profité pour dire, faites-vous dépister. Je veux juste passer l'extrait, juste pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire, OK?
On voit la rentrée venir, on est à 4 semaines. Si on veut contrôler la transmission qu'on a en ce moment, le dépistage est quand même un outil super, super important. Alors, je pense que c'est un message important à faire passer. Tu sais, c'est l'été, des fois, ça ne nous tente pas trop de s'isoler. En même temps, je pense qu'on est mieux de le contrôler là.
Bon, alors, donc, il parle de l'importance du dépistage. Et nous, on parle depuis le début de l'importance de la vaccination. En quoi le dépistage devient important à ce moment-ci?
Bon, on sait que c'est les gens qui ont le virus, évidemment, qui vont être ceux qui vont transmettre le virus. De plus en plus, les gens qui vont avoir le virus, ça va être des gens avec des très hautes doses, ça va être les non-vaccinés, mais même il y a des gens vaccinés qui peuvent avoir aussi pas mal de virus et probablement même le transmettre. Donc, même si on n'a pas beaucoup de symptômes ou même si on n'a aucun symptôme, on est en contact avec des gens qui ont la COVID, je pense que c'est important d'aller se faire tester. Premièrement, c'est pas parce que quelqu'un aboutit pas à l'hôpital qu'ils vont pas être malades. Alors, il y a des gens qui vont possiblement développer la longue COVID, même s'ils sont pas très malades au début. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe avec eux. Et deuxièmement, c'est des gens qui peuvent infecter d'autres. Alors, ils peuvent infecter leurs proches, incluant leurs amis, mais aussi leurs parents, leurs enfants, s'ils ont des enfants. Alors, je pense que c'est important, quand on a des symptômes, puis comme il dit, ça peut être des symptômes de rhume, ça peut être des très faibles symptômes. Il y a des gens qui ont à peine de symptômes, puis même avec Delta, il y avait des évidences que les symptômes étaient un peu moins sévères pour un certain groupe de la population que pour les autres variants de ce coronavirus. Donc, je pense que c'est important. On aurait tous tendance à pas y aller si on a juste un petit mal de gorge puis dire, écoutez, je veux pas de trouble pour mes proches. Mm-hmm. Mais je pense que c'est important de savoir où est-ce qu'est le virus, qu'est-ce qui se passe avec le virus. On se bagarre avec ce virus-là au point de vue populationnel. C'est pas juste des bagarres individuelles. Alors, je pense qu'il faut que l'information soit transmise aux autorités de la santé publique pour qu'ils sachent ce qui se passe.
Si je suis testé positif, mais que je suis pas très, très malade, je vais faire 14 jours en dedans. Là.
Je sais pas si c'est 10 ou 14.
Ouais,
là,
en tout cas, une réclusion pour un temps.
Oui, c'est sûr. Et puis, les gens qui ont été en contact avec vous, à moins qu'ils aient été vaccinés, vont avoir présumément à faire la même chose. Ceux qui ont été vaccinés, il va falloir qu'ils se fassent tester. Et puis, s'ils sont positifs, eux aussi, on assume qu'ils vont se faire isoler. Quoique les règles à ce sujet-là sont pas encore claires. Aux États-Unis, le CDC a recommandé que si des gens sont vaccinés, sont en contact avec des gens infectés, puis là, ils deviennent positifs, les vaccinés deviennent positifs, ils doivent aussi s'isoler. Alors, je pense que c'est important de savoir ce qui se passe. On veut savoir ce qui se passe avec le virus-là.
Exact.
Vous avez raison, il y a plein de gens qui vont pas se faire tester. Moi, j'ai l'impression que les chiffres sont beaucoup plus élevés que
ce que l'on voit dans la statistique. Ouais. Hein? parce que les gens disent, hey, moi, là, mes vacances s'en viennent, là. Ça fait un an que je suis pas sorti. Le déconfinement commence à sentir la vie normale. J'irai en revenant. Je perdrai pas 14 jours ou 10 jours chez nous alors que je suis en vacances. C'est ça l'enjeu, là.
C'est ça. Mais le risque, c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup malade que quelqu'un avec qui on va avoir des contacts
ne sera pas gravement malade.
Très, très, très malade.
Exact. Quatrième vague, c'est sûr, hein?
C'est sûr, on peut être faire de la sémantique puis dire bon, ça va être des multiples vaguelettes. Moi, j'ai l'impression que ça va être de plusieurs choses à différentes places, à des moments soit synchronisés ou non synchronisés. Mm-hmm. Ce qui fait que si on fait ça comme il faut, on devrait éviter un confinement total au Québec. Mais c'est sûr qu'il va falloir se donner les outils, incluant pas juste la vaccination, mais toutes les autres choses qu'on connaît, incluant un passeport, incluant les masques quand c'est indiqué,
pour pouvoir se protéger. Vous m'avez coupé ma question. Je disais, c'est sûr qu'on va passer au passeport vaccinal. C'est, le scénario est placé pour ça.
Oui.
C'est sûr, hein?
Oui, je pense que oui. J'espère, en tout cas. Puis j'espère que ça va pas être trop compliqué, comme il semblait l'indiquer il y a quelques semaines, que ça serait juste pour les choses non essentielles, puis ça serait juste lorsqu'il y a des éclosions, sinon ça devient trop compliqué à gérer. Faut pas oublier qu'une fois qu'on met ça en place, là, il va falloir que les commerces, va falloir que les gyms, va falloir que les théâtres
collaborent.
Puis il faut qu'ils achètent l'équipement, faut qu'ils mettent les choses en place pour être capable de scanner les codes QR puis avoir les réponses appropriées. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça. Alors, je pense que le plus vite on va commencer ça, le mieux ça va être. Et je suis surpris, honnêtement, qu'on n'a pas commencé à faire ça. Là, on voit les cas qui augmentent. Là, je pense pas que ça doit traîner beaucoup plus longtemps. Peu importe, ça va être quoi la formule, que ce soit une formule conditionnelle, certains endroits à certains moments, ou que ce soit une mesure totale, il va falloir que les commerces se mettent, aient les outils pour être capables de scanner les codes QR des gens.
La première fois que le gouvernement va nous dire « on n'est pas encore rendu là », ça veut dire que ça s'en vient.
C'est vrai.
C'est une main qui marche depuis le début. Merci beaucoup, Dr Veillette, de ces lumières-là. Merci bien.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Bonne journée. On s'arrête.
Bonne journée. Pause.
Bonne journée. Bye. Bien sûr, toutes les causes dans une société sont bonnes et chacun y trouve sa cause pour y travailler. Mais il y a une affaire qui nous touche tous collectivement, si c'est pas aujourd'hui, c'est éventuellement. C'est le traitement que subissent des enfants et les débordements qu'il y a du côté de la Direction de la protection de la jeunesse, et c'est pas de la faute de la protection de la jeunesse. Imaginez-vous qu'il y a pas moins de 540 enfants qui présentement sont sur une liste d'attente suite à des dénonciations et des signalements. Ça veut dire que des enfants qui souffrent, qui sont maltraités, qui sont dans le besoin et la misère, et on n'a pas encore eu le temps de les évaluer. C'est une situation inacceptable. On va parler, si vous le voulez bien, à Jocelyne Boudreau, qui est attachée de presse au CIUS de Montréal. Et ça, je ne parle que de Montréal avec 540 enfants. Imaginez les autres régions où les ressources sont peut-être moins grandes. Elle est une ancienne intervenante également à la DPJ. Elle va nous raconter cette situation-là. Jocelyne Boudreau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Mongrain. Comment allez-vous?
Bien, merci. Et vous?
Oui, ça va bien.
OK, malgré
tout. On aimerait. Oui, malgré tout, mais évidemment, on aimerait que la situation de nos enfants